pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix et Livre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi Alice au Pays des Merveilles aujourd'hui. Voici la première phrase du roman. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. Et on sait que finalement, elle ne va vraiment pas s'ennuyer. Nous non plus aujourd'hui, des romans, nous en découvrirons plein d'autres chez l'écrivain Eric Fotorino tout à l'heure. Il nous a ouvert sa bibliothèque. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête pour de bonnes idées de lecture. Et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix et Livre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1. La Voix et Livre. Nicolas Carreau.
Un invité un peu spécial cette semaine. Demain sera remis le prix Goncourt. C'est la grand-messe littéraire annuelle. Je serai d'ailleurs demain au restaurant chez Drouan avec une centaine de confrères dans la cohue pour interviewer le lauréat ou la lauréate. En attendant, j'ai voulu en savoir plus. Sur le prix Goncourt, je suis donc allé voir un membre du jury, l'écrivain et journaliste Pierre Assouline. Allons-y. Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour.
Vous êtes membre du jury Goncourt. Le résultat, c'est demain chez Drouan. Ça va encore être une cohue sans nom de journalistes qui se précipitent sur le lauréat et les membres du jury pour les interviews. Vous avez le trac ?
Pas du tout. Non, vous savez, je vais pas monter sur scène. Je ne vais pas monter sur scène, ni même sur la table, sauf si on nous fait des mauvaises manières. Mais non, au contraire. Mais en même temps, il y a toujours une tension, hein, bien sûr.
Ah, quand même.
Ah oui.
De quelle nature ?
Mais c'est la tension, parce que en deux mots, la tension, parce que c'est un vote. Et il y a une pression quand même, parce qu'il y a 300 journalistes qui attendent en bas, et il faut finir à l'heure. Pour la télé, mais pas seulement pour la télé, pour tout le monde. La tension, c'est que on a tous un candidat ou une candidate, et on aimerait bien que faire aboutir notre champion.
Il y a des équipes qui se forment quand même sur certains candidats.
S'il y en a, cher monsieur, je ne les connais pas.
Bah, vous en discutez quand même, vous en débattez.
Non, bien sûr. Non, quand on dit équipe, ça peut sonner lobby, groupe de pression. Non, il y a des équipes, c'est-à-dire que il y a des affinités qui se forment, puisque nous, c'est la transparence interne, hein, c'est-à-dire que on ne vote pas à bulletin secret, on vote à main lavée. Donc, ça signifie qu'on sait exactement ce que pensent les uns les autres et ce qu'ils votent. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, c'est sûr que des affinités électives se forment entre tel et tel juré autour du choix d'un livre.
Mais alors justement, quand vous apercevez qu'un de vos camarades défend le même candidat, est-ce que vous voyez, vous vous appelez en disant « il faut qu'on attaque sous tel angle, qu'on défende de telle manière le livre pour qu'il remporte la victoire ?»
Alors certains le font, bien sûr. Moi, je ne fais pas trop ça, mais c'est vrai qu'avant, parfois, il nous arrive de nous retrouver au bistrot en face de chez Drouan, certains, et pour discuter un peu, pour voir comment aiguiser nos couteaux pour faire en sorte de faire aboutir notre choix.
Alors, le Goncourt, c'est une institution, mais il n'y a pas tellement de règles, finalement. On dit qu'il faut que ce soit une œuvre de fiction, mais cette année, parmi les finalistes, il y a Un récit de voyage d'Olivier Rollin. On dit qu'on récompense le roman, mais parfois, vous rendez aussi hommage à une œuvre. Je pense à Michel Houellebecq, qui a eu le Goncourt en 2011. Y a-t-il des règles écrites, des critères stricts, ou est-ce que le jury fait tout simplement ce qu'il veut ?
Alors, première chose, il y a non pas des règles, mais un règlement intérieur et des statuts. Tout ça est très clair. Deuxième chose, les points que vous avez évoqués sont sujets à interprétation. C'est-à-dire que c'est votre interprétation. Vous dites, Olivier Rollin, c'est un récit de voyage. Moi, je dis, c'est le roman de sa vie.
Le Goncourt, c'est le prix le plus prestigieux du monde francophone, mais il a aussi un écho mondial. C'est un enjeu énorme pour un éditeur, en moyenne 400 000 ventes, mais en fait, beaucoup plus. Ça vous met quand même pas la pression, ça ?
Ça met la pression sur une chose, le sens de la responsabilité. Parce que quand on est membre du jury et qu'on va se décider pour un livre, et donc qu'on plaide pour un livre, eh bien, on se dit, ce livre va être acheté par des centaines de milliers de personnes. Pour beaucoup de Français, c'est le seul livre qu'ils vont lire dans l'année. Pour beaucoup de Français, c'est le livre qu'ils vont offrir à Noël. Vous savez, quand le livre n'est pas bon, tout de suite, il y a une justice. Hein. Très vite, en 3 semaines, le bouche à oreille le détruit. Et les ventes s'effondrent. Donc, on ne peut pas se permettre de refiler n'importe quoi aux gens, si je puis dire.
Mais alors justement, est-ce qu'il ne se pose pas... J'ai beaucoup d'admiration pour vous, vous le savez. Mais est-ce qu'il y a, quand on est membre du jury, on n'a pas ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur en se disant « c'est tellement énorme, est-ce que j'ai la légitimité pour décider de ça ?»
Personne n'a la légitimité. Mais... Moi, je suis journaliste aussi, je suis comme vous, on est des confrères. Qui nous a fait roi ? Personne. On a été engagé par un rédacteur en chef, mais à la limite, quand on critique des livres, vous et moi, on pourrait nous dire, mais vous vous prenez pour qui ? Qui vous autorise à me critiquer ? Donc, c'est permanent ce procès-là. Ma seule légitimité, c'est que j'ai été coopté dans ce jury par des écrivains.
Est-ce qu'on a peur de se tromper, justement, de passer à côté d'un grand écrivain ? D'ailleurs, c'est arrivé dans l'histoire du Goncourt. Est-ce que vous vous posez cette question ou vous la mettez de côté pour choisir, justement, ce qu'il y a dans la sélection ? Point.
On se pose toujours la question, y compris s'agissant d'un écrivain qu'on a choisi, en se demandant est-ce qu'il va écrire d'autres livres ? Est-ce qu'il va aller au-delà ? Est-ce que le livre qu'on vient de choisir, il ne sera pas oublié dans 3 ou 4 ans ? C'est évident qu'on se pose la question tout en se disant cette question... n'est pas pertinente parce que, strictement, on n'en sait rien. Et nul n'en sait rien.
Question corrosive. Est-ce qu'il y a, oui ou non, pour le Goncourt, des tentatives de corruption, même douce ?
Ah, si seulement ça pouvait être vrai.
Ah, si seulement vous pouviez me dire oui.
Oui, mais corruption douce, vous savez, c'est inutile. Première chose, jamais dans l'histoire du Goncourt, le jury n'a été aussi indépendant qu'aujourd'hui. Deux raisons. La première, c'est que le président Pivot est très connu dans le milieu littéraire et qu'il a une réputation d'indépendance et d'incorruptibilité qui est telle que ça rejaillit sur l'ensemble du jury. C'est la première chose. La deuxième chose, la majorité des membres du jury sont des gens qui écrivent des livres qui se vendent très bien. Je ne dis pas des best-sellers. Enfin, Virginie Despentes, Philippe Claudel, Eric-Emmanuel Schmitt et d'autres, vendent très très bien leurs livres. Ils n'ont pas besoin d'une petite enveloppe, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas le sens. Enfin, personne n'en a besoin et c'est pas l'esprit du jury actuel. Troisième chose, il y a eu une réforme dans le règlement il y a un certain nombre d'années, selon lequel il est interdit pour un membre du jury d'être salarié d'une maison d'édition. Comme directeur de collection, conseiller littéraire ou autre. Et donc ce conflit d'intérêts-là, qui a existé pendant très longtemps et qui était scandaleux quand on y pense, n'existe plus puisque c'est interdit.
Oui, mais les membres du jury, vous compris, sont souvent des écrivains qui sont donc rétribués par des éditeurs. Et je ne dis pas que ça pose un problème, mais c'est contradictoire.
La solidarité supposée d'un écrivain avec son éditeur, d'abord, ça peut exister. Mais moi, je pense que c'est relativement rare, mais ça existe certainement. Elle n'est rien par rapport à la solidarité implicite et inconsciente d'un juré avec un écrivain. Nous avons tous des amis écrivains. Donc, et certains sont parfois goncourables. Bon, ben, il faut faire en sorte d'oublier à un moment ou à un autre, c'est-à-dire au moment crucial, celui du vote, d'oublier ça, parce que la seule chose... La seule qu'on doit juger, c'est pas l'écrivain, c'est sûrement pas l'éditeur, c'est pas le sujet. Non, c'est le contenu du livre, c'est le texte.
Et est-ce que vous avez déjà hésité à défendre un candidat Gallimard parce que vous êtes un auteur Gallimard ?
La question ne se pose pas pour moi. Il y a des...
Même si c'était votre préféré, je veux dire.
Je peux... Non.
En vous disant, c'est mon préféré, mais bon,
Je vais vous dire, j'ai défendu... Un livre publié par Gallimard qui était mon préféré et qui a eu le Goncourt, c'est le Chanson douce de Leïla Slimani. En revanche, il y a eu des finales où il y avait un livre Gallimard édité par Gallimard contre un livre édité par un autre éditeur qui n'était pas le mien Mais il se trouve que je préférais ce livre édité par un autre et j'ai défendu ce livre édité par un autre.
Et demain, c'est une nouvelle page de son histoire que le Goncourt va écrire. On se replonge justement avec Pierre Assouline dans cette histoire dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre avec Pierre Assouline, membre du jury Goncourt qui sera demain au restaurant chez Drouan pour désigner le lauréat 2019 du Goncourt. Pierre Assouline, vous êtes toujours avec nous. Vous faites partie des jurés passionnés par le Goncourt même, par son histoire. Vous en êtes en quelque sorte la mémoire. Pouvez-vous nous rappeler comment est né le prix Goncourt ?
La première chose à savoir, c'est qu'il est né donc, il y a un peu plus d'un siècle, en réaction à l'Académie française. Donc c'est un prix contre, avant d'être un prix pour. Parce que les écrivains qui se sont réunis là se sont réunis en disant « on en a assez ». Du goût de l'Académie française, de ses tendances. Et le testament des frères Goncourt...
Qui étaient-ils ?
Les frères Goncourt ? Oui. Bon, ce sont deux frères. Dont un, on dit les frères parce qu'ils étaient toujours ensemble, Jules et Edmond. Et on disait Jules et Edmond en un seul mot, tellement ils étaient inséparables, qui ont une œuvre romanesque importante, qui n'est plus aujourd'hui du tout. Mais qui est importante, et surtout qui ont laissé, alors là c'est un document d'époque terrible, vous disiez corrosif tout à l'heure, alors là pour ce qui est du corrosif, on est servi, c'est leur journal littéraire, en 3 volumes, qui est un document extraordinaire, mais d'une méchanceté, d'une cruauté terrible. Tout le monde en prend pour son grade, ils n'aimaient personne en fait, mais ils ont un talent exceptionnel, comme diariste, exceptionnel.
Et comment ils montent ce prix ?
Et ils décident donc par testament de léguer à une société, ça s'appelle la Société littéraire des Goncourt. Donc ils disent, voilà, il faut qu'il y ait 10 membres du jury, il faut impérativement que ce soit 10 écrivains, on leur servira une rente, donc dans le testament, ils laissent une très grosse somme d'argent, et cette rente à l'époque équivalait au salaire d'un fonctionnaire, parce que, disait-il, on leur demande de lire toute l'année des livres, donc c'est la moindre des choses. Malheureusement, cette rente a fondu avec le temps.
Combien on gagne en tant que membre du jury ?
On gagne l'estime du voiturier de chez Drouan, ce qui est beaucoup.
C'est tout, il y a zéro.
Zéro. Et c'est, je peux vous dire que parfois, c'est un full-time job.
Ben oui, c'est un vrai travail.
Parfois, oui. Mais on n'est pas obligé d'y aller, hein, de participer. On peut refuser d'être membre du Goncourt.
Pourquoi ça se passe chez Drouan, d'ailleurs ?
Parce que, alors, la bonne idée, c'est qu'au départ, donc ces 10 membres du jury, réunis par une conception de la littérature qui les rapprochait, se sont dit on va se réunir dans un restaurant. Alors à l'époque tout se passait autour du Palais Garnier, hein, de l'Opéra Garnier. Donc les meilleurs restaurants étaient là et donc ils en ont essayé un, ça n'a pas duré longtemps. Un deuxième, ils se sont engueulés avec le patron. Et puis finalement ils sont arrivés chez Drouan, place Gaillon, qui est à 2 pas. Et là ça s'est bien passé et ça dure depuis 110 ans. Et nous on y est tous les mois, on est le seul jury qui se réunit tous les mois, toute l'année.
L'histoire du Goncourt est émaillée d'anecdotes extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'Émile Ajar, alias Romain Gary ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Cette histoire ne concerne pas que le Goncourt, elle concerne toute la société littéraire, parce que tout le monde a été mystifié. Un jour est arrivé un manuscrit, à la vie devant soi, signé d'un Émile Ajar, publié au Mercure de France. Émile Ajar, inconnu au bataillon, au départ, et... voilà, tout de suite, ça a pris, parce que c'est un livre magnifique. Des articles sont sortis, etc. Il y a eu des émissions de radio, de télévision, etc. Et puis, comme de juste, le concours, ça l'a sélectionné. Et puis, a couru le bruit que peut-être c'était, peut-être pas une supercherie, mais qu'un écrivain se cacherait derrière ce pseudonyme. Donc, il y a eu des enquêtes, etc. On a interrogé l'éditrice, qui était Simone Gallimard. Bref, ça a été très loin, mais personne n'a découvert la véritable identité. Et quand il a eu le Goncourt, c'était Émile Ajar. Après, on s'est aperçu que c'était Romain Gary, qui a donc été le seul, dans l'histoire du Goncourt, à avoir eu 2 fois le prix. Une fois sous son nom et une fois sous pseudonyme.
En 1951, Julien Gracq refuse le Goncourt pour le Rivage des Sirtes. Pourquoi ? Et d'ailleurs, a-t-on le droit de le refuser ou est-ce qu'on l'a, qu'on le veuille ou non ?
C'est comme le Nobel, on peut refuser, on l'a de toute façon. Le jury ne tient pas compte du refus. Sauf que Julien Gras, qui était prof d'histoire géo au lycée Claude Bernard, Julien Gras avait publié un pamphlet dans une revue, puis après dans un petit livre, intitulé « La littérature à l'estomac », dans lequel il disait, il démontait la politique littéraire et il disait beaucoup de mal des prix littéraires. Donc il disait bien que de toute façon, pour lui, il n'en voulait pas. Les Goncourt ont été au-delà. Ils ont admiré son livre et bon, ils ont fait fi de son avertissement. Et ben, lui a tenu bon et dit « j'en veux pas ». Sauf que il y a eu quand même un scandale énorme, parce qu'il a une conférence de presse, etc. Et ce scandale a fait que ça a fait vendre le livre, de toute façon. Mais de toute façon, dans le palmarès, il est écrit qu'il a eu le prix et que le prix a été refusé. Vous voulez un scoop ?
Oui.
C'est peu connu. C'était un tel scandale que quelques jours après, un petit groupe de surréalistes a entrepris le projet, il a conçu le projet de kidnapper Julien Gracq à la sortie du lycée Claude Bernard, après ses cours, pour faire un happening, en quelque sorte, kidnapper celui qui ne voulait pas le prix Goncourt. Mais alors, c'était vraiment des branquignoles, hein, parce qu'ils ont fait leur groupe, leur commando, et ils ont tiré au sort celui qui allait effectivement l'attraper pour l'envoyer dans une fourgonnette et qui passait. Et c'est le plus jeune d'entre eux, qui avait 17 ans, qui a tiré le truc. Et il était assez gringalé. Vous savez qui c'était ?
Non.
Guy Bedos. Et alors, il s'est précipité sur Julien Gracq et Gracq l'a poussé en disant « Qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Puis là, il est parti. Et Bedos est resté tout penaud comme ça.
Mais qu'est-ce qu'il voulait en faire de Julien Gracq ?
Ah ben, le kidnapper.
Puis ensuite ?
Ah ben ça, j'en sais rien.
On ne connaît pas cette histoire. Vous ne l'avez jamais raconté dans un livre ?
Non, je ne l'ai jamais raconté, mais Bedos, dans un article, j'en ai parlé. Après, il m'a téléphoné, il m'a dit « Oui, c'est vrai. Et... »
Quel est votre meilleur souvenir à vous, en tant que membre du jury Goncourt, et le pire ?
Alors, mon meilleur souvenir, c'est quand on me l'a annoncé. Donc, quand je suis venu pour la première fois, je connaissais Drouhan et le Salon Goncourt, parce qu'en tant que journaliste, j'ai couvert le prix pendant des années. Donc, j'allais avec un micro comme vous. Et la première fois que j'y suis allé comme membre du jury, j'ai été accueilli très chaleureusement par chacun des membres qui m'a serré la main ou embrassé. Et Bernard Pivot, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans au magazine Lire, c'était mon patron. Et vous savez, dans la presse, on vous voit son patron, enfin à l'époque. Et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit « Bon, eh ben, mon vieux, à partir d'aujourd'hui, on se tutoie, parce qu'ici, c'est la règle. » Et ça, c'était inoubliable pour moi, parce que voilà, je passais un cap.
Et votre pire souvenir ? Allez, encore un scoop.
Mon pire souvenir, c'est que quand il y a la meute des journalistes, technicien du son, photographe et de plus en plus de chaînes d'infos avec des grosses caméras qui vient. Bon, c'est une émeute à l'étage des Goncourt parce que c'est pas fait pour contenir 300 personnes. Nous, on doit rester à table hein, et ils viennent interviewer tout le monde. Et le lauréat s'assoit à côté de nous. On est étouffé par la pression des gens qui poussent. Et une fois, j'ai vraiment failli me faire ouvrir le crâne par un tel objectif. Ce qui fait que l'année suivante, dès qu'ils sont arrivés, j'ai mis un casque intégral. Parce qu'à l'époque, je faisais du scooter. J'ai mis un casque intégral et tous les photographes m'ont photographié avec mon casque. Mais j'ai dit, je ne prends plus le risque.
Bon, on espère en tout cas que demain, ça restera aussi un bon souvenir. Bon courage à vous et j'y serai aussi. Donc, vous me gardez un peu de dessert ?
Ah ben avec plaisir, je garde un doggy bag.
Merci beaucoup, Pierre Assouline.
Europe 1.
Dans un instant, c'est vous, chers auditeurs, qui faites votre choix. Vous m'appelez pour me dire quel est le livre qui vous a marqué, qui a changé votre vie éventuellement. Aujourd'hui, c'est Patricia qui se prête au jeu. Elle a adoré La route de Cormac McCarthy. A tout de suite.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est Livre. Chaque semaine, je vous demande quel livre a changé votre vie ou quel roman vous a marqué. Ça peut être un grand classique, un livre culte, un roman inconnu, tout me va. Cette semaine, c'est donc Patricia qui nous appelle d'Apt dans le Vaucluse. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Alors, vous m'avez envoyé un message sur la boîte mail de l'émission pour me dire que vous aimeriez parler de La Route, le chef-d'œuvre de Cormac McCarthy. Vous pouvez nous raconter l'histoire d'abord ?
Alors oui, c'est un père et un fils donc qui se retrouvent sur la route. Ils veulent atteindre la mer. Pour le père, c'est très important. Il pense qu'il y aura des choses meilleures parce que très certainement Le monde a connu un accident nucléaire, enfin en tout cas...
C'est ça, on est dans une ambiance post-apocalyptique un peu.
Hein. Ah mais c'est complètement... Ah oui, c'est complètement ça, hein. C'est l'apocalypse qui s'est abattue sur la Terre. De la poussière tombe sans arrêt sur les gens, tout est gris, plus de soleil, des nuages. Et donc... dans ce livre aussi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que avant ces ténèbres, le père a vécu une histoire d'amour et ça, il le raconte un peu en filigrane. Mais surtout, c'est ce chemin, cette route qu'ils affrontent tous les jours pour se nourrir déjà parce qu'il n'y a plus rien. Ensuite, il y a énormément d'hostilité. Sur cette route, il faut sauver sa vie à tout prix. Voilà, c'est essentiellement une survie, une question de survie pour lui et son fils.
Bon, puis on ne va pas faire une analyse littéraire, mais il y a quand même là une grande métaphore de la vie elle-même, finalement. Quoi.
Oui.
Traverser ensemble les épreuves.
C'est ça, et peut-être aussi, moi ce que j'avais ressenti lorsque je l'ai lu ce livre, c'était aussi nous faire toucher du doigt que sous toute cette horreur, il y a encore de l'humanité.
Quand est-ce que vous l'avez découvert et comment ? On vous l'a offert ? Alors, vous l'avez acheté par hasard ?
Ah non, pas du tout. Alors c'est ma sœur qui m'a prêté ce livre et en me disant, bien écoute, tiens, s'il t'intéresse... Et puis j'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu m'arrêter en fait. Mmh. Alors sans vouloir dévoiler quelque chose quand même de très important dans ce livre, dans
Attention.
Ce récit. Non, mais je ne dirai rien. Mais il y a un passage qui m'a bouleversée, qui m'a perturbée. Et lorsque j'en ai parlé à ma sœur, je lui ai dit, mais ce livre est fort, mais il est violent à des moments, des choses que jamais j'aurais pu imaginer. Et elle me dit, mais je n'ai pas pu le lire, moi je n'ai pas pu continuer tellement il me dérangeait, il m'effrayait. Voilà, donc je lui ai dit, bien merci, mais c'est vrai quand même, après coup, je ne regrette pas parce que c'est de la grande littérature.
Mais justement, vous m'avez dit dans votre message qu'il vous avait angoissé ce livre.
Oui, parce que ce que je ne peux pas dévoiler, parce que c'est quand même une partie très importante du livre, mais il y a un passage qui est tellement... je ne sais pas, je n'ai même plus les mots.
Mais comment ça s'est traduit ? C'est-à-dire, vous avez arrêté la lecture, vous y pensiez toute
la
journée ?
Mais je relisais le passage, je me disais, non, ce n'est pas possible, non, tu as mal lu. Voilà, parce que ça me semblait inimaginable. Je n'avais jamais rien lu de tel. Et pourtant, enfin voilà, Dieu sait que j'en ai lu des bouquins, mais là, et vous voyez, c'est pour cette raison que précédemment je disais, heureusement, même s'il y a un passage extrêmement choquant, perturbant, il y a quand même de l'humanité, quoi qu'il en soit,
et oui, c'est
dans le bouquin.
C'est le propre des grands romans, d'ailleurs, c'est nous bousculer. Vous l'avez rendu à votre sœur ou pas ?
Alors non, parce qu'elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas le lire.
D'accord, de toute façon, on ne retrouve jamais les livres qu'on prête, c'est une règle. Merci beaucoup Patricia, La route donc de Cormac McCarthy, merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
Et si vous aussi vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres. Nous partons visiter la bibliothèque d'Éric Fotorino. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est livre.
La voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. La semaine prochaine se tiendra la foire du livre de Brive, une immense fête du livre avec des dizaines d'auteurs invités. Le président de la foire de Brive, c'est Éric Fotorino, ancien directeur du Monde, cofondateur du 1 et de la revue America. C'était l'occasion d'aller visiter sa bibliothèque. Allons-y. Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On est dans l'ouest de la région parisienne, dans une petite maison vraiment très mignonne.
avec des petites pièces un peu partout et bourré de livres, évidemment. C'est nouveau. Comment c'est organisé les livres chez vous?
C'est un peu comme ils viennent sous la main, d'abord, parce que comme j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps, donc ils ont habité dans des cartons. Et donc, vous savez, c'est un peu comme Noël que vous vous faites comme ça spontanément. Vous ouvrez des cartons, tiens, vous retrouvez des livres que vous n'aviez plus vus depuis un petit moment. Et après, en fonction des étagères, vous vous rangez de façon à peu près aléatoire, sauf quelques endroits.
Il faut quand même que je raconte quelque chose. On est avec Thomas Roussel, le preneur de son, qui est aussi un des motards d'Europe 1. Et quand je vous ai dit ça, vous avez dit « Ah bah oui, j'en ai vu dans le Tour de France des motards d'Europe 1 », parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes un fanatique de vélo. Oui. Et d'ailleurs, dans cette pièce, là, on est dans votre bureau entouré de livres, mais aussi entouré de vélos un peu partout, des cadres, des figurines de cyclistes. D'où ça vous vient, ça?
Et ça, c'est vraiment l'enfance. C'est vraiment ces passions d'enfance, de voir les coureurs passer, de devenir un coureur. Moi, j'ai été élevé à Bernard Thévenet, à Eddy Merckx, aussi à Fausto Coppi dans les légendes, dans les livres. Et donc, j'ai mes petits coureurs près de moi. Il y a sûrement autant de petits coureurs que de livres dans ma bibliothèque.
Et oui, là, on a une vitrine avec des figurines. Ça date de quand, ça?
Il y a toutes les époques. Non, moi, j'ai rien peint. Je suis assez peu manuel, en tout cas pour les petits coureurs. Et j'allais les acheter à une époque dans un petit magasin près de la gare de Lyon qui s'appelait les collections de sport. Il y en a qui datent des années 20, ceux qu'on appelle les longs nez ou les mentons galoches, et on les voit là sur une petite planche en train de faire l'ascension d'un Mont Ventoux imaginaire.
Et la petite planche, c'est vous qui l'avez fabriquée?
Oui, ça c'est moi, oui, c'est pas grand-chose, c'est une petite caissette de vin, donc je leur ai fait un petit dénivelé quand même à 10 ou 12%, et puis j'ai des coureurs plus récents, quand je dis plus récents, des années 70, où on retrouve Tom Simpson, qui est cet Anglais qui est mort là, avec le drapeau britannique, le drapeau, le maillot Peugeot de Bernard Thévenet, il y a Eddy Merckx, voilà, ils sont là.
Il y a une bonne soixantaine de coureurs.
Et Yvette Horner sur une petite voiture.
Il y a toute la caravane avec des petites voitures. Mais alors, c'est étrange, je ne vois pas de voiture Europe 1, ça ne fait pas du tout Tour de France.
Alors,
ça,
si vous voulez, alors je vais vous dire, je l'ai, la voiture Europe 1, j'en ai une.
Et orange ?
Elle est orange, absolument, orange et noir. Et elle est sur une autre cheminée, dans une autre maison, à la campagne, près de La Rochelle.
Alors ça va, on vous pardonne. Bon, on est quand même là pour parler des livres. Alors, il y en a un peu partout. Comment ils sont organisés? Il y en a sur la cheminée, il y en a sur des étagères, dans une vitrine. Comment ça marche?
Disons que, comme vous voyez, la bibliothèque, je l'ai conçue, c'était de vieilles bibliothèques dont je n'avais plus les montants, j'avais que les planches. Et donc, j'ai acheté des briques. Et pour bien consolider l'ensemble, en espérant qu'un jour, il ne me tombera pas sur la figure. Et donc, un jour, dans mon coffre, j'avais 100 briques, c'était assez rigolo. Et puis...
On n'a plus rien, un jour.
Voilà, on n'a plus rien, mais enfin, on peut avoir des livres, on peut ranger des livres. Et donc, là, sur cette grande bibliothèque, bien, les livres qui m'accompagnent, je dirais, depuis 20 ou 30 ans. Donc, c'est-à-dire beaucoup de poches... beaucoup de folios. Et puis, donc, là, il y a un peu ce fond, ce socle un petit peu de mes lectures depuis 30 ans. Et puis, sur la cheminée, il y a ceux, vous savez, on dit quelquefois, il y a les livres pour être lus et les livres pour être là. Ceux-là, ils sont à la fois lus et là, c'est-à-dire qu'ils sont jamais à plus d'un mètre de là où je travaille, comme s'il y avait une sorte d'ombre comme ça qui passait sur moi.
Paradoxalement, les livres qui sont sur la cheminée, donc, sont les livres que vous emportez s'il y a le feu.
S'il y a le feu, oui, c'est ceux de la cheminée, vous avez raison.
Et on va commencer par eux, hein, si c'est les plus importants.
Oui, en tout cas, ils m'inspirent.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a du Romain Gary, beaucoup, dans des vieilles éditions Gallimard.
Ouais.
C'est les éditions d'époque.
Oui, c'est des éditions premières pour certaines. Il y a des livres très connus de Gary, puis il y en a qui le sont moins, comme Lady L, ou L'homme à la colombe, où il s'appelle Fosco Sinibaldi. Et en fait, les livres de Gary m'ont accompagné comme ça depuis que j'ai une vingtaine d'années, parce qu'il y a un humour incroyable, un humour triste, mais un humour, une sorte de désinvolture et de gravité à la fois. Et je pense que Gary, il m'a montré... beaucoup de chemin de ce que c'est que l'écriture.
Ah, et à côté, alors vous êtes un collectionneur, un obsessionnel, il y en a beaucoup des comme vous, c'est-à-dire que quand vous aimez un auteur, vous avez toute la collecte.
Oui,
donc il y a toute
quasiment.
La collecte Gary et à droite toute la collecte Modiano.
Voilà, c'est oui, jusqu'au dernier, hein, jusqu'évidemment à l'encre sympathique. Et pour moi, les livres de Modiano, le premier que j'ai lu de lui, c'était La rue des boutiques obscures. Et quand je l'ai lu, ça a été vraiment un coup dans la figure, non pas tant par le style ou l'écriture que j'ai beaucoup aimé, parce que je suis entré dedans, vous savez, on ne se rend pas compte qu'on lit, et puis on a lu tout un livre. Mais parce que j'ai l'impression qu'il m'a autorisé. Je me suis dit, tiens, mais on a le droit de faire ça, on a le droit d'aller creuser dans ses origines, on a le droit. Et il m'a donné, oui, cette autorisation d'écrire d'une certaine manière. Je le lui ai dit un jour.
Ah, donc vous l'avez rencontré, lui,
oui,
bien sûr.
Oui, oui. C'était un soir, l'année où j'ai eu le prix Femina, Antoine Gallimard m'a dit, je vous ai fait une petite surprise, j'ai invité Patrick Modiano. Alors, j'étais tremblant et on a passé un dîner. Et je lui ai dit, vous savez, je crois que j'écris parce que vous avez écrit. Et je sais que, par exemple, chaque été, quand je repars à la campagne, j'ai évidemment pas tous les Modiano, mais j'en ai beaucoup aussi là-bas, et je relis Villa Triste. Voilà.
Mais vous le revoyez de temps en temps ou...
On s'écrit, il m'envoie ses livres, mais non, moi ça fait partie des personnes que j'affectionne beaucoup, mais j'ai l'impression que, j'ai pas envie de le déranger. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas quelqu'un, je dis tiens, est-ce qu'on, voilà, mais peut-être qu'on refera.
C'est intéressant cette cheminée. Vous m'avez dit que vous mettiez vos livres précieux pour vous, parce que donc il y a à la fois Romain Gary à gauche, Patrick Modiano et sa tranquillité, oui, et puis Jack London au milieu dans les éditions de la Pléiade, oui, et Tchekhov dans son côté très, voilà, très prestigieux et très, très grand styliste et tout ça. Et donc ça vous résume bien quand même, ce côté à la fois tranquille mais en même temps, oui, aventurier.
Bah, Jack London, pour moi, est, effectivement, c'est... Je me souviens d'avoir lu la première fois que j'ai lu L'appel de la forêt, mais j'étais complètement saisi. J'étais pas seulement le narrateur, j'étais le chien de traîneau, j'étais la neige. Enfin, je crois que quand on lit des auteurs comme ça qui sont complètement embarqués, qui vous embarquent dans un univers sauvage, vous avez l'impression que de voyager, d'éprouver. Et donc j'aime bien ces auteurs qui sortent du nombril et puis qui tout d'un coup vous emmène très loin.
Alors juste à côté, il y a une autre bibliothèque avec toute la collection aussi, oui, d'un auteur que vous aimez bien, j'imagine un peu, c'est Eric Fotorino, c'est vous-même, parce que je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain, ou écrivain et journaliste. D'ailleurs, comment on s'en sort de ce statut un peu double ?
C'est drôle parce que pendant très longtemps, les gens n'ont pas bien compris. Les journalistes ne comprenaient pas que je voulais écrire des romans, et les romanciers me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais à faire du journalisme ?» Et en fait, pour moi, il y a quand même une grande différence. C'est-à-dire que le journalisme, pour moi, c'est un métier dont j'ai fait une passion. Alors que écrire, c'est vraiment une passion dont je n'ai pas fait un métier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui passe par tous les interstices de la vie, mais je ne me dis pas le matin « Je vais au travail en écrivant ». C'est un état, c'est pas un métier. Voilà, donc effectivement, les folios, ça commence à en faire beaucoup. Je garde ces livres effectivement près de moi. C'est une manière de se dire qu'ils sont là aussi et qu'ils résument d'une certaine manière une grande partie de ma vie. Je comprends pourquoi j'ai écrit quand je vois ces livres.
Là, je vois toutes les archives du 1, oui, dont vous êtes un des fondateurs. Oui. Est-ce que vous avez la collection de la revue America ?
Ah, bien sûr.
Dire, pour ceux qui ne connaissent pas America, qui est une revue consacrée à l'Amérique, mais du point de vue des écrivains et de la, voilà, littérature et de beaucoup de choses, quand on a la collection, c'est comme les J'aime lire, ça forme la carte des États-Unis. Et
exactement,
là, on arrive, il en reste quoi, 2 ou 3 ?
Ah non, on est au 11, il y en aura 16.
Il y en aura 16, donc il en reste 5.
Il y en a encore 5, donc il va falloir que je les déplace, vous voyez. Je suis allé jusqu'au bout dans cette petite pyramide en bois pouvoir les loger l'un après l'autre. Et donc, on commence à lire quasiment Amérique. Hein, il manque le A et puis la fin de la carte. Et donc, en janvier 2021, on aura terminé cette aventure qui a été initiée par François Bunel, qui est un passionné d'Amérique et de littérature américaine. Et voilà, donc.
Et comment on se lance là-dedans ? Parce que, je veux dire, vous avez. Aujourd'hui, où on dit que le papier est en train de se consumer, justement, oui, vous avez créé Le 1, qui est un journal papier, et puis America, qui est une revue quand même.
Voilà, 200 pages par trimestre. On a créé Zadig aussi, qui est un trimestriel.
Il se trouve que ça cartonne, mais comment on se lance là-dedans? Comment on se dit, si, ça va marcher, pas de problème.
En fait, on espère que ça va marcher, on ne le sait jamais avant. Mais disons que c'est vraiment une envie qui l'emporte sur la peur. C'est comme écrire un roman, vous savez. Un roman, il faut croire à son histoire. Quand vous lancez un journal, il faut que vous croyez et que vous pensiez que beaucoup de gens vont croire à cette histoire. Et là, en l'occurrence, sur America, avec François Bunel, on s'est décidé en une demi-heure, un jour, sur le coin de mon bureau. Il était venu tout excité en me disant « Écoute, il faut qu'on fasse quelque chose sur l'Amérique. » Je lui dis « Oui, je pense que tu as raison, mais tu verrais quoi ?» Et lui avait déjà en tête quand même des choses très précises en disant « Il faut que ce soit les écrivains américains qui nous racontent l'Amérique. » Et à partir... Vous voyez, un journal, je pense pour qu'il marche, il y a plein de raisons. Mais... il faut déjà pouvoir dire en trois mots ce que c'est. Et là, America, ça raconte, ce sont les écrivains qui racontent l'Amérique.
Alors, il y a le 1 qui parle beaucoup de littérature, c'est plus de l'actualité, mais beaucoup de littérature aussi. America, qui est centré sur la littérature, vous êtes vous-même écrivain, vous êtes président de la foire de Brive. Qu'est-ce qui vous fascine tellement chez les écrivains?
C'est-à-dire que...
c'est des occasions de les côtoyer, tout ça?
D'abord, je pense que les écrivains, c'est toujours... quand on dit un écrivain, on dit un univers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, chacun ou chacune à sa manière, vous montrent une part du monde qui est cachée. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de plus... alors là, c'est le journaliste qui parle autant que l'écrivain. Il n'y a rien de plus fascinant, excitant de se dire on va découvrir un monde qu'on ne connaît pas. Et autant d'écrivains, autant de mondes inconnus... Et je pense que c'est la magie de l'écriture, c'est de faire ressurgir ce qu'on ne lirait pas justement dans la presse, dans un très bon article, dans un très bon reportage.
Et merci beaucoup à l'écrivain que vous êtes de nous avoir fait découvrir votre monde aujourd'hui. Merci
avec
beaucoup,
joie, merci d'être venu.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Thomas Roussel pour la prise de son. Et je vous rappelle donc que la foire du livre de Brive, c'est le week-end prochain. J'ai essayé déjà, franchement, allez-y, si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup. Restez là, les libraires de La Voix et Livre sont prêts. Ils ont apporté chacun un livre avec une mission, vous donner envie de les lire. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre.
La Voix et Livre continue, il est temps de retrouver nos libraires, enfin un libraire aujourd'hui, Jérémy Banel de la librairie L'Écriture à Paris et Pauline Carayon du Centre National du Livre. Bonjour à tous les deux.
Salut Nicolas.
Salut Nicolas.
On commence par vous Pauline.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez apporté?
Eh bien je vous ai apporté le premier roman d'Anne Poli qui s'intitule « Avant que j'oublie », paru aux éditions Verdier. Anne Poli raconte dans ce bouquin la perte de son père. Elle raconte aussi la vie matérielle qui s'ensuit. Des détails cocasses et absurdes, par exemple le passage aux pompes funèbres, le choix du cercueil, le prix que ça va coûter.
C'est très gai votre livre aujourd'hui.
Mais elle le raconte avec...
j'ai toujours rigolé cela dit.
Mais elle le raconte avec beaucoup d'humour et beaucoup de simplicité. Parce que lors du deuil en fait, elle va par exemple chercher dans son grenier sa vieille malle aux souvenirs et elle va découvrir une facette de la personnalité de son père qu'elle ne soupçonnait pas. En fait, c'est un mec qui est caustique, qui est bourru, qui est un peu violent, mais en même temps poétique, et en même temps c'est un homme fidèle. Et elle raconte comment faire pour s'ouvrir au quotidien. Voilà, les factures qu'il faut payer, les injonctions au bonheur permanentes. Et elle raconte aussi comment elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie grâce à Céline Dion. Elle parle de la catharsis par la pop, en fait. Et toutes ces paroles qui semblent si simples, eh bien, en fait, elle parle à tout le monde.
Mais elle a quel âge, en fait, à ce moment-là quand c'est
Elle a la quarantaine.
Ah, d'accord.
Elle a la quarantaine. Alors, elle est lesbienne. Son père, elle fait partie de la classe, la classe un peu moyenne. Et ce qu'elle raconte, c'est comment se positionner dans cette société-là quand on a perdu ses parents. Et voilà, continuer grâce à l'amour, continuer grâce à des moments simples. Et en fait, ce sont ces moments simples-là qui font qu'on réussit sa vie.
Bon, c'est beau, c'est bien écrit et en plus, c'est drôle.
C'est drôle, c'est okay. Très drôle, très bien écrit.
Anne Poli, avant que j'oublie, chez Verdier. Merci Pauline. Bon. Jérémy Banel, vous prenez le large.
Oui, on prend le large grandement, puisqu'on va à la fois revoir la géographie et puis refaire aussi un voyage dans l'histoire. Alors, je voudrais commencer en disant que Civilization, donc de Laurent Binet, dont on va parler là, d'abord, c'est la revanche des joueurs de jeux vidéo.
Et oui, c'est parce que c'est Civilization avec un Z.
C'est Civilization
comme le jeu
avec
vidéo.
Un Z comme le jeu vidéo, exactement.
Civilization, donc, qui est un jeu où on est une sorte de dieu qui contrôle des civilisations.
Voilà, c'est ça. Et l'histoire se passe forcément un petit peu différemment. Donc l'histoire, la vraie, on la connaît, hein. Les Vikings arrivent probablement en Amérique du Nord, ils en sont techniquement les premiers occidentaux découvreurs, ils y restent très peu, et finalement c'est Christophe Colomb en 1492 qui découvre avec des guillemets l'Amérique.
Fastoche.
Facile, jusque-là ça va. Et à partir de là, Laurent Binet construit ce qu'on appelle une uchronie, mais qui est en vrai une vraie fantaisie, un livre ludique, vraiment. Où en fait, le petit changement qui s'opère dans le début de l'histoire, c'est que les Vikings restent un peu plus longtemps que ce qui s'est réellement passé. À partir de là, les populations d'Amérique du Nord découvrent deux choses. D'abord, les maladies européennes, mais s'en immunisent. Et d'autre part, découvrent aussi le fer. Une fois que cette histoire se termine, elle dure quelques dizaines d'années, on fait un saut dans le temps et on arrive en 1492 avec le faux journal de Christophe Colomb, qui arrive en Amérique, comme prévu, et qui découvre à ce moment-là des populations, d'une part, qui sont immunisées aux maladies, ce qui aura joué un grand rôle dans la vraie histoire, et qui, d'autre part, ont le fer, et donc tout un tas de moyens techniques très différents de ceux qu'il avait rencontrés réellement. Et c'est à partir de là que l'histoire bifurque, que sans trop révéler la fin de l'histoire, évidemment, ils sont beaucoup plus puissants. Résultat, Christophe Colomb perd, après toute une succession d'embûches, perd militairement contre eux, et ce sont les Incas qui débarquent en Europe. Et donc, à partir de là, l'histoire se renverse complètement. La grande force du livre, au-delà de son côté narratif très, très prenant et vraiment romanesque, c'est qu'il est, il est construit comme les littératures, ou d'une certaine façon comme les littératures de l'époque. On a une saga viking, on a le journal de Christophe Colomb, on a la conquête qui est racontée à la façon d'une épopée par les Incas, etc. etc. Mmh. Donc un roman vraiment ludique, qu'on prend plaisir à lire et qui en plus permet de revoir l'histoire, évidemment, c'est un peu le principe, un peu différemment. On s'aperçoit finalement que l'Europe de 1500, qu'on considère puissante, finalement, ne l'est pas tant que ça, puisque quand les Incas arrivent, ils s'aperçoivent qu'il y a tout un tas de problèmes, etc.
Et puis surtout, il renverse les choses, mais il ne dit pas « ça aurait été un monde merveilleux si c'est les Incas qui avaient découvert l'Europe et non pas les Européens qui avaient découvert l'Amérique ». C'est plus complexe que ça.
C'est plus complexe que ça.
C'est pas du tout manichéen.
C'est pas du tout manichéen et c'est à la fois un monde qui est très différent du nôtre et qui finalement lui ressemble aussi furieusement.
Civilisation de Laurent Binet, c'est chez Grasset. Merci beaucoup à tous les deux. Et Pauline, je rappelle le titre.
Avant que j'oublie. Dan voilà. Pauline.
Chez Verdier. Merci beaucoup à tous les deux. Et maintenant, direction le rayon jeunesse avec Victor Dolande.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous conseillez un livre intitulé « Le grand voyage en abécédaire » de Christian Demilly.
Oui, alors déjà, il faut que je vous fasse une petite précision, notamment pour les jeunes parents ou ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un abécédaire. On a le droit, Nicolas.
On a tous été enfants avec des abécédaires.
C'est pas faux. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, ce sont donc ces livres, hein, généralement, qu'on lit aux enfants à partir d'un an et demi, deux ans, pour leur apprendre leur premier mot. À chaque page, une lettre de l'alphabet, avec des mots qui commencent par cette lettre, bien évidemment. Et alors ici, ce n'est pas un abécédaire classique, puisqu'il est destiné pour les 4-5 ans.
C'est-à-dire, quelle est la différence avec un abécédaire classique?
Alors en fait, il va reprendre vraiment tous les codes classiques de l'abécédaire, une page par lettre de l'alphabet, sauf qu'il peut aussi se lire, et c'est là la différence, comme un album classique. Il y a donc une histoire, d'accord, deux garçons se préparent à vivre une grande aventure. On les suit des préparatifs, le petit déjeuner, jusqu'au bout de leur voyage. Laetitia va vous en lire un petit extrait.
Mais le temps passe, hélas, et le sommeil engourdit tout le monde. À force de fatigue, dans le frêle esquif, on s'est endormi. Quelle erreur ! Les flots se déchaînent et bientôt le courant emporte la barque. On se réveille d'un coup, on se frotte les yeux. Mais non, ce n'est pas une farce ! Au loin, on distingue un fanion qui flotte et où l'on peut lire « Attention écueil ». Trop tard pour réagir, le canot fond sur un rocher et sa coque se fendit. L'embarcation, soudain, devient incontrôlable et se rapproche dangereusement du fleuve.
Les mots de la page E sont en bleu pour les repérer et vous aurez aussi entendu des mots quand même un peu plus compliqué, je ne sais pas si vous l'avez repéré, Nicolas, esquif, écueil. C'était une volonté de l'auteur, enfin, quand je dis compliqué pour des enfants de 4-5 ans, on s'entend, mais c'était vraiment une volonté de l'auteur, hein, Christian Demilly, ne pas céder à la facilité des mots trop simples pour les 4-5 ans. Au contraire, avec ce texte, ils vont apprendre plein de nouveaux termes, de synonymes. Alors c'est un avantage pour eux. C'est en revanche un peu plus pénible pour les parents, car votre lecture sera entre-découpée de questions permanentes du genre « Mais ça veut dire quoi, ça ? Et ça, papa ?» Hein, ça veut dire quoi ?
Mais c'est ça le contrat quand on lit un livre.
Exactement, exactement. Enfin, un mot sur ce livre, objet d'illustration d'Alain Pilon. Ses gros traits presque naïfs donnent des allures un peu rétro à ce superbe voyage. On a l'impression vraiment de vivre les aventures de deux petits garçons au début des années 80. D'ailleurs, petit clin d'œil avec un brin de nostalgie, les grands-parents adoreront également cet album.
C'est parfait, c'est en lisant qu'on apprend à lire. Et je rappelle le titre, Le Grand Voyage en abécédaire de Christian Demilly, illustré par Alain Pilon. C'est édité par Grasset Jeunesse. Merci Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.